CQFD.
Votre dossier du jour aujourd'hui, Adrien, est consacré à l'astronomie chinoise, un sujet qui vous a captivé.
Oui, parce que comme beaucoup de monde, je connaissais rien à l'astronomie chinoise, et grâce à un livre qui vient de sortir, 4000 ans d'astronomie chinoise aux éditions Belin, j'ai pu m'y plonger et y découvrir des choses passionnantes. Il faut savoir que les Chinois observent le ciel depuis 4000 ans. Ça signifie qu'ils ont fait de très nombreuses observations bien avant nous en Europe. On peut penser à Galilée, mais on peut même penser à la Grèce antique. Et les astronomes chinois ont découvert les taches solaires, ils ont étudié la trajectoire des comètes ou l'explosion des étoiles en fin de vie, parfois 1000 ans avant nous. Alors, ce qui est particulièrement intéressant avec ce livre, c'est qu'il nous raconte l'histoire de l'astronomie chinoise à travers l'histoire incroyable de la Chine, avec également de la vulgarisation scientifique pour comprendre les phénomènes dont on parle, qu'il s'agisse d'une supernova ou d'un pulsar ou même du méridien. Et tout ceci s'explique parce que l'auteur de ce livre connaît bien la Chine et il est astrophysicien, donc c'est une lecture riche que je vous recommande chaudement.
Cet auteur est en duplex avec nous de Paris. Il s'appelle Jean-Marc Bonnet-Bideau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes effectivement astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, passionné par l'astronomie chinoise depuis fort longtemps. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste? D'où vient cette passion chez vous?
Écoutez, ce sont des raisons professionnelles. Parce que mon sujet, c'est justement que vous avez évoqué tout à l'heure, la mort des étoiles, la fin de vie des étoiles, et qui sont des événements extrêmement spectaculaires. Il faut voir qu'une étoile qui explose dans le ciel, c'est quelque chose qui peut être visible à l'œil nu, bien sûr, et parfois aussi brillant que la pleine lune. Alors, en fait, dans mon sujet, c'est aussi la raison pour laquelle on s'intéresse à ces objets, à ces explosions, c'est que, en fait, la fin de la vie d'une étoile, c'est un peu le début de notre vie à nous. Parce que l'étoile fabrique des éléments chimiques et lors de son explosion, elle les disperse dans l'espace et c'est ça qui va faire que sur Terre et sur d'autres planètes, on peut trouver des éléments comme le carbone, l'azote et l'oxygène, des choses qui sont essentielles à la vie. Et donc, dans mes études, il y a une de ces explosions qui est restée spectaculairement connue parce qu'elle a été étudiée abondamment. C'est une étoile dont on voit actuellement les restes dans le ciel, dans la constellation du Taureau, qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et il se trouve qu'on a réalisé que tout ce qui s'était passé pour donner naissance à cette nébuleuse était consigné dans un texte chinois qui avait été écrit au début sous la dynastie des Song en l'an 1054. Et on sait très, très précisément la date exacte de cette explosion d'étoiles, c'est le 4 juillet 1054.
Et donc, en tant que chercheur, ça vous a fasciné de vous dire mais comment est-ce qu'on peut avoir une telle précision, c'est ça?
Exactement ce que j'ai lu, ce texte chinois qui décrit l'explosion, qui est extrêmement précieux pour nous parce que il nous décrit exactement comment ça s'est passé, où ça s'est passé d'abord, ce qui nous a permis de la retrouver, ensuite comment ça s'est passé et la durée du phénomène qui nous a permis de comprendre le phénomène physique qui est l'explosion de cette étoile massive qui était une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil. Et donc je me suis dit, mais en fait, qui est ce collègue qui m'a donc donné ces informations extrêmement précises, comment je peux en savoir plus sur l'époque à laquelle il travaillait et sur la connaissance qu'ils avaient du ciel à ce moment-là. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas beaucoup de choses disponibles dans les sources en Europe. Et donc, ça m'a amené effectivement à faire un projet d'aller moi-même en Chine pour éclaircir tout ça.
Et donc, vous y partez à la fin des années 80. Et là, vous découvrez un monde, en fait, un univers d'astronomes, avec une histoire que vous n'imaginiez pas, en fait.
Bien sûr, évidemment, parce que les astronomes chinois, même des générations modernes, connaissent quand même un petit peu leur histoire. Et ils savent, par exemple, que les taches solaires qui ont été trouvées au XVIe siècle, au XVIIe siècle en Europe, étaient connues déjà sous les premières dynasties, il y a plus de 2000 ans. Et donc, j'ai petit à petit appris à connaître d'abord la qualité des textes chinois. Il faut savoir que la Chine a bénéficié de deux inventions spectaculaires que nous avons récupérées par la suite en Europe. D'abord le papier qui a été inventé en l'an 105 et ensuite l'imprimerie qui a été inventée vers l'an 1000. Et donc en Chine, c'était une réflexion d'un sinologue bien connu qui a fait énormément d'études sur la science chinoise, s'appelait Joseph Needham, qui disait en Chine, tout ce qui existe est soit perdu, soit imprimé. C'est-à-dire qu'on a des textes surtout quand ils ont été gardés.
Alors on va faire ce que vous faites dans votre ouvrage Jean-Marc Bonnet-Bideau, donc 4000 ans d'astronomie chinoise, c'est-à-dire qu'on va y aller un peu chronologiquement en remontant à la première dynastie qui a régné sur une partie de la Chine dès le 21e siècle avant notre ère, donc là ça remonte encore bien avant l'invention du papier et de l'imprimerie a fortiori, c'est la dynastie des Xia, et cette dynastie faisait déjà de l'astronomie?
Oui, absolument. Alors ça, c'est vrai. Ce sont vraiment des résultats spectaculaires qui ont été obtenus par des fouilles archéologiques relativement récentes, parce que jusqu'à encore une vingtaine d'années, on ignorait même si cette dynastie avait vraiment existé. On la considérait plutôt comme légendaire, rapportée dans des textes, mais du domaine plutôt de la mythologie. Et petit à petit, on a fait des découvertes très importantes. L'une de ces découvertes concerne l'astronomie. En 2005, en fait, dans une région du nord de la Chine, près d'un village qui s'appelle Taose, on a découvert ce qui peut être considéré comme un premier observatoire. Alors, c'est un observatoire qui est daté de l'an moins 2100, donc ça fait plus de 4000 ans. Et c'est un observatoire un peu, tout petit peu conçu comme vous connaissez sans doute Stonehenge en Angleterre, où on avait
les
mis
rochers,
des pierres levées pour relever la position du sol.
Et
bien, c'est exactement ce qui se passe. On a mis à jour une plateforme avec des encoches dans lesquelles étaient fixés des piliers de bois qui permettaient en fait de repérer la position du soleil à l'horizon, et ce qui peut être considéré comme un des premiers observatoires chinois, donc il y a plus de 4000 ans.
Est-ce qu'on sait ce que cette dynastie, donc la dynastie des Xia, qui vivait il y a 40 siècles, a découvert? Quelle était sa compréhension de l'astronomie?
Il est encore difficile de préciser exactement, mais on a les traces de ce qui sera par la suite considéré comme un concept très très chinois, qu'on appelle le mandat du ciel. Et le mandat du ciel, c'était le rôle qu'on attribuait à l'empereur chinois. Avant les empereurs, c'était même les rois, d'ailleurs, c'était plutôt des royautés, et dans lequel l'empereur était responsable de l'harmonie du ciel et de la terre. C'est-à-dire qu'il était l'intermédiaire pour les hommes entre le ciel et la terre. D'ailleurs, le caractère du ciel et de l'homme porte cette trace dans la graphie de l'idéogramme chinois. Et donc, on a la trace par plusieurs découvertes archéologiques que déjà à cette époque, c'était un petit peu la conception qui prévalait. C'est-à-dire que pour être un bon souverain, il fallait maîtriser toute la connaissance du ciel.
Alors, on va passer à la dynastie qui a succédé aux Xia, c'est les Shang. On est maintenant au 16e siècle avant notre ère. Et les Shang sont les inventeurs de quelque chose qui date d'avant le papier, mais qui est très très important évidemment dans l'histoire de la Chine et de ce qui nous en reste, c'est de l'écriture chinoise.
Exactement, parce que on a découvert, là aussi ce sont des découvertes qui sont des aventures en elles-mêmes, on a découvert sur la vallée du fleuve Jaune, près de la ville de Luoyang, il y a à peu près à la fin du 19e siècle, tout d'un coup les paysans chinois, il y a une inondation qui a ouvert une crevasse, et à l'intérieur de cette crevasse il y avait un amoncellement d'eau, de carapaces de tortue, d'os de bovins, et ces paysans chinois étaient tellement surpris de voir cet amoncellement d'os qu'ils ont cru que c'était vraiment les os du dragon, c'est-à-dire qu'un dragon était venu mourir là et les os qui restaient c'était les os du dragon. Et ils se sont évertués à en faire une poudre miracle pour soigner les maladies. Et il s'est trouvé qu'un lettré un jour est passé par là, on lui a fourni cette poudre, mais il a dit mais d'où elle vient?
Je veux voir le dragon.
Montré, voilà, je veux être soigné par les os du dragon. On lui a montré un de ses os avant qu'il ne soit broyé, et à sa grande surprise, il a trouvé sur ses os finement gravés des dessins qui sont les ancêtres des idéogrammes chinois, mais dont on peut encore retrouver la parenté avec les idéogrammes actuels. Et donc, c'est donc par là qu'on a découvert ce qui peut être considéré comme la grande bibliothèque des Shang, parce qu'on en a récupéré quand même un certain nombre. Ils n'ont pas tous été concassés pour faire de la poudre. Et c'est une source d'information phénoménale, parce que là, on est dans des périodes qui vont à peu près de moins 1800 à moins 1100. Et parmi ces os gravés, il y en a un qui a attiré l'attention des astronomes parce que c'est la plus ancienne mention d'une explosion d'étoiles dont nous parlions tout à l'heure. Elle est localisée près de l'étoile d'Antarès. On n'a pas exactement sa date précise, mais c'est à peu près l'an moins 1500. Et donc, c'est la première supernova, puisqu'on appelle ces explosions des supernovas, connue par l'humanité, qui est inscrite comme ça dans une carapace de tortue gravée.
Et vous remettez, on a l'image de cet os dans votre livre. On continue cette histoire de la Chine vue par l'astronomie avec la dynastie des Zhou. C'est la plus longue de toutes. Elle s'étend entre le 10e siècle et le 2e siècle avant notre ère. C'est une époque où on va vraiment s'intéresser énormément aux comètes.
Oui, de nouveau, là, ce qui nous est fourni, c'est un document exceptionnel qu'on a trouvé dans une tombe par ailleurs spectaculaire, puisqu'il y avait encore la momie de la femme qui était une marquise, qui avait été enterrée, qui est en un état complètement préservé, ce qui est une surprise pour même les archéologues. Mais à côté d'elle, il y avait des ouvrages qui étaient, là, on est avant la création du papier, c'est un livre qu'on appelle le livre de soie, parce qu'il est écrit finement sur de la soie, qui était un des matériaux les plus résistants de l'époque. Et dans ce livre de soie, on a un somptueux catalogue des formes de comètes. Et c'est une surprise extraordinaire, parce que vous savez que les comètes sont assez rares. Vous voyez, par exemple, en Europe récemment, il faut remonter à une quinzaine d'années pour avoir deux ou trois comètes qui ont été visibles à l'œil nu facilement. Et là, on a une collection de 29 dessins de comètes, tous différents, très très finement dessinés, en distinguant bien d'ailleurs la structure que les astrophysiciens modernes ont su distinguer. Certaines ont des queues incurvées, d'autres des queues droites. Vous avez la partie qu'on appelle la chevelure qui est très brillante. Et donc, ce dont on est aperçu, c'est que pour constituer dans ce document qui date du 5e siècle avant notre ère, tous ces dessins, eh bien, il a fallu sans doute accumuler des observations sur plus de 1000 ans, parce qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre de comètes différentes qui soient apparues aux yeux des Chinois. Et donc, on a par ce catalogue de comètes l'idée que ces observations ont commencé il y a bien, bien longtemps, sans doute très, très régulièrement, à partir de l'an 1000 avant notre ère.
Jean-Marc Bonnet-Bideau, peut-être la plus connue de toutes les comètes, c'est la fameuse comète Halley. Est-ce qu'elle était connue des Chinois ?
Alors, elle était connue sans qu'on sache que c'était la même qui revenait, parce que vous savez que la comète de Halley a une période approximative de 76 ans, à peu près une génération humaine. C'est pour ça qu'on se passe le mot. On dit, voilà, à ses petits-enfants, tu observeras peut-être la comète de Halley. Et alors, ce qui a été une grande surprise, les comètes, on connaît leur trajectoire assez précisément maintenant. Donc, on peut remonter dans le passé et savoir, par nos calculs, quand est-ce qu'elle est apparue. Et l'étude a été faite dans toutes les chroniques chinoises. Et sur les 29 passages, elle est passée 29 fois près de la Terre, depuis le 2e siècle avant notre ère. Et bien, ces 29 passages ont tous été retrouvés dans les chroniques chinoises, ce qui nous montre l'assiduité et la précision qu'avaient les astronomes chinois pour repérer ces événements qui, certes, étaient très spectaculaires. Une comète, elle traverse le ciel, puis après, elle disparaît, c'est un peu mystérieux. Donc, ça avait déjà captivé l'attention des astronomes chinois.
Cécile ?
Oui, je me posais la question, comment ils observaient ? Ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé d'observer le ciel en permanence, du coup ?
Ah mais écoutez, c'était plus que ça. On va dire, peut-être pas dans des époques très très éloignées, mais déjà sous la grande dynastie des Han, dont on va peut-être parler, il y avait des observatoires qui étaient l'équivalent de notre CNRS. C'est-à-dire, il y avait 800 personnes qui travaillaient dans un observatoire. Il y avait deux terrasses, parce qu'on voulait pas que les équipes, chacune indépendamment, racontent des choses inventées. Donc, on les mettait en concurrence. Elles rapportaient à l'empereur, à la fin de la nuit, tout ce qui s'était passé. Elles consignaient bien sûr par écrit. Donc c'était une organisation étatique, c'était une recherche d'État. C'était, alors, il y a une grande différence avec la Grèce, parce que vous savez que la Grèce a été une grosse civilisation astronomique, mais là c'était des penseurs un peu isolés, des rêveurs qui travaillaient dans leur coin. Et donc finalement on a perdu beaucoup de choses. Là c'était étatique, organisé pour que justement le pouvoir de l'empereur soit appuyé sur des faits tangibles qui puissent montrer à la population qu'il comprenait ce qui se passait dans les cieux. Et c'est de là qu'il a accordé beaucoup d'attention et surtout beaucoup de subsides, j'imagine, puisqu'il fallait quand même payer tous ces fonctionnaires pour observer en continu le ciel. Et tous les jours, tous les jours.
Notre dossier sur l'astronomie chinoise aujourd'hui dans CQFD. Jusqu'ici, Adrien Zerbini, nous avons évoqué trois dynasties, les Xia, les Shang et les Zhou. Il va ensuite se passer quelque chose d'extraordinaire en Chine.
Oui, parce que les dynasties dont on a parlé jusqu'à maintenant n'occupaient qu'une partie du territoire chinois. On l'a dit, c'était en fait des royaumes. Mais deux siècles avant notre ère va naître l'Empire et donc le premier empereur. Et cet événement va être à la fois une très bonne et une très mauvaise nouvelle pour l'astronomie chinoise. On va comprendre pourquoi dans un instant. Sur cette révolution qu'a été l'arrivée du premier empereur, qui s'appelle Shi Huangdi, j'espère que je le dis bien, je vous propose un extrait d'un documentaire passé il y a quelque temps sur France 5.
Dès 237 avant notre ère, Yang Cheng se lance dans une guerre à outrance. Il bat ses adversaires les uns après les autres. En 221, ses armées ont envahi tous les royaumes de ses rivaux. Yang Zheng prend le titre de Shi Huangdi, le premier empereur. Il vient de réaliser le rêve de nombreux souverains chinois. L'empereur édicte des lois, unifie les systèmes de poids et de mesure, fait réviser l'écriture et crée l'impôt sur le revenu. Sur les frontières du Nord, des centaines de milliers d'ouvriers débutent un chantier gigantesque sur plus de 2400 km. Une grande muraille destinée à relier entre elles des fortifications existantes et à rejeter les hordes de cavaliers barbares. La Chine exclut et devient le pays au centre du monde. Le Zhongguo, l'empire du milieu. En 221 avant notre ère, après avoir achevé l'unification, l'empereur choisit sa capitale. Ce sera Xianyang, idéalement située sur les bords de la rivière Wei, au centre du réseau des routes desservant l'empire et au bout de la célèbre route de la soie. Cher Wangdi n'a pas choisi cette ville au hasard. Sa position répondait à sa volonté de se situer au centre de l'univers. Une obsession qui se traduit très concrètement sur le terrain. Durant l'Antiquité chinoise, l'étoile du Nord, appelée Di, empereur, était adorée comme une divinité présidente aux destinées des mortels. Xin Shi Huangdi aurait confondu son autorité avec celle de l'astre.
Il a souhaité placer sa capitale au centre du monde. Il était alors en train de prendre le contrôle d'une région gigantesque et diversifiée. Son entreprise ne pouvait pas s'accomplir par un recours exclusif à la force. Il s'en est aussi remis aux autorités célestes.
La Chine antique, le premier empereur, extrait d'un documentaire diffusé par France 5 sur l'arrivée au pouvoir du premier empereur de Chine. Même s'il s'en remet aux autorités célestes, Jean-Marc Bonnet-Bidot, l'arrivée de cet empereur n'a pas été uniquement une bonne nouvelle pour l'astronomie. Racontez-nous.
Non, ni pour l'astronomie, ni pour finalement la civilisation chinoise dans son ensemble. Eh bien, en fait, cet empereur qui a unifié la Chine a mal toléré qu'il reste dans certaines régions de la Chine des anciens monarques qui ont contesté son autorité. Et il est rentré en guerre contre ce qu'on appelle en Chine les lettrés, c'est-à-dire tous ceux qui lisaient les textes et qui produisaient les textes. Et il a un jour, en 213 avant notre ère, ordonné un auto-da-fé de tous les textes anciens chinois. Et cet auto-da-fé a été effectivement prescrit et exécuté. Et la majorité des grands textes chinois ont disparu à cette époque, à l'exception, et pour les astronomes c'est important, des textes de divination, parce que quand même c'était aussi la légitimité de l'empereur, on l'a vu, de rester en accord avec le ciel. Donc tout ce qui était divination a été préservé, et une partie des textes astronomiques, une très petite partie a été préservée. Donc ça a été un hiatus dans la civilisation chinoise, et il a fallu attendre les Han pour qu'on reconstitue une partie de ce patrimoine culturel chinois.
Alors après cette catastrophe va être écrite justement la première encyclopédie chinoise et là encore, encore aujourd'hui c'est une source inestimable d'informations très précises sur l'astronomie chinoise.
Exactement, parce que la personne, là on est passé sous les Han, qui est la grande dynastie de la culture classique chinoise, qui a été entre moins 200 et plus 200, et la personne qui s'est attelée à la reconstitution des textes historiques disparus était un astronome. Et donc il a apporté un soin particulier à nous rapporter les connaissances de son temps en ce qui concerne le calendrier, les étoiles et les catalogues d'étoiles. Et il a donc reconstitué ce qui était la première encyclopédie, qui a été par la suite copiée par les différentes dynasties. En Chine, ce qui est particulier, chaque dynastie écrivait l'histoire de la dynastie précédente. Et on a comme ça au moins 24 histoires dynastiques qui nous inscrivent tous les événements, y compris politiques, mais scientifiques et aussi finalement culturels, qui se sont passés dans l'Empire de la Chine.
Jean-Marc Bonnet-Bidot, là nous sommes environ un siècle avant notre ère. Où en sommes-nous en Chine à cette époque de la compréhension de l'univers, la cosmologie? Est-ce que la Terre est ronde? Est-ce qu'elle tourne autour du Soleil? Où est-ce qu'on en est par rapport à ces questions?
Alors là, il y a une évolution spectaculaire, je pense, parce que tous ces concepts cosmologiques qui n'étaient pas tellement abordés jusque-là ont été traités par différentes écoles de pensée. Là aussi, il y a une multiplicité de points de vue. Et à la même époque, sous les Han, on avait trois descriptions du monde différentes qui coexistaient et qui discutaient entre elles de la validité de leurs arguments. L'une était la plus ancienne, qu'on a appelée Gaïtien, c'est-à-dire le dôme céleste. Alors là, on a une Terre qui est carrée, surmontée d'un ciel qui est une demi-sphère comme un bol renversé. Et donc, en fait, c'est une des théories qui était la plus ancienne. Mais elle coexistait avec ce qu'on appelait la sphère céleste, et celle-ci est plus étonnante pour nous, où là, on nous décrit la Terre comme un jaune de l'œuf à l'intérieur de l'ensemble de l'œuf qui serait l'univers. Donc, on a une conception déjà où la Terre pourrait être sans doute sphérique, quoiqu'on n'est pas encore totalement on n'est pas certain que ça soit le cas, mais en tout cas, environné d'un univers sphère sphérique autour d'elle-même. Et puis, on a une troisième théorie qui est encore plus étonnante. Et celle-ci, elle a été la moins discutée. C'était celle du vide infini. Et là, la théorie disait, consignée dans les textes, que les astres n'étaient que de la vapeur condensée, séparée par d'énormes vides, ce qui est approximativement la conception qu'on a encore de l'univers.
Aujourd'hui, c'est vrai. Ouais.
Jean-Marc Bonnet-Bideau, vous avez également longuement étudié la plus ancienne carte d'étoiles connues. Là, on fait un saut dans le temps, puisque ce manuscrit date d'environ des années 660 de notre ère. C'est d'ailleurs la carte qui fait la couverture de votre livre, hein, sauf erreur. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, il s'agit de la première carte connue dont l'humanité ait gardé une trace. C'est-à-dire que on sait sans doute que les gens se sont efforcés de faire des cartes du ciel, c'est-à-dire de représenter sur un plan ce qui est une sphère, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Il faut appliquer des méthodes mathématiques. Donc, on n'est pas sûr qu'elles aient été réalisées dans le passé. En tout cas, celle-ci est la preuve évidente que au 7e siècle, on est au début des Tang, les Chinois avaient réalisé cet exploit parce que il faut cataloguer les étoiles, les dénombrer et ensuite les reporter sur une surface plane. Et cette carte est un manuscrit de 2 mètres de long et qui constitue une carte complète centrée au long de l'équateur dans les méthodes que nous adoptons encore aujourd'hui. C'est la méthode de projection que nous adoptons. Il y a plus de 1300 étoiles réparties dans des constellations qui nous sont totalement étrangères puisqu'elles sont très nombreuses et pas du tout similaires à celles des Grecs, mais qui sont identifiées à chaque fois par un nom. Et donc cette carte qui a été découverte totalement par hasard, mais vraiment totalement par hasard parce qu'elle était cachée dans un monastère bouddhique l'extrémité de la Chine.
Une espèce de cave. Hein.
Et voilà. Et un jour, un moine au début du XXe siècle a essayé de nettoyer ce monastère qui était effectivement à l'abandon. Il tape contre un mur, il entend un son creux, il casse la paroi et il trouve 40 000 manuscrits empilés de toutes les époques entre l'an 300 et l'an 1000 puisque le monastère avait été fermé en l'an 1000. Donc c'est aussi une découverte spectaculaire. Mais en lui-même, ce document est exemplaire de la précision de l'astronomie chinoise de cette époque.
4000 ans d'astronomie chinoise, c'est le titre de votre ouvrage que vous signez et que vous publiez aux éditions Belin. Jean-Marc Bonnet-Bideau, je rappelle que vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous étiez à Paris avec nous aujourd'hui dans CQFD pour nous permettre de découvrir voilà un pan vraiment très très méconnu, alors en l'occurrence de l'histoire de l'humanité, cette histoire de l'astronomie chinoise. Merci d'être venu aujourd'hui dans CQFD, invité par Adrien Zerbini. On vous souhaite une belle journée à Paris.
Merci à vous.
À bientôt.
CQFD sur la première.